Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler littérature, littérature noire et en même temps de proximité avec Soufiane Heut. Bonjour Soufiane Heut.
Bonjour.
J'ai prononcé correctement?
Parfaitement correctement.
Voilà. Donc, pour le dernier roman paru, j'espère que ce n'est pas le dernier d'une carrière littéraire, c'est le troisième par contre,
Tout à fait.
Rap au vif. Alors, il y avait eu. On s'était vu pour le. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, si c'est un récit ou un roman. J'aurais envie de dire peut-être récit en double, en partie double,
Oui.
qui était Mektoub. Hein.
Mektoub aux belles éditions Domains.
Voilà, demain, c'est un éditeur régional qui a une certaine renommée et une ancienneté sur la région importante. Alors, je dis roman en double parce que il y avait deux récits qui se menaient en parallèle, et puis dans le livre, eh bien, c'est du recto verso. On tourne un livre dans un sens ou dans l'autre, et on avait le récit du père ou le récit du fils. Et puis il y avait eu un premier roman, Mes points sur les i, qui avait été publié par l'Harmattan. Voilà. Alors là, c'est un nouvel éditeur. Ils n'ont pas encore beaucoup de titres, il me
C'est une
semble.
nouvelle
Si.
maison d'édition qui vient
Nouvelle
de se
maison
créer,
d'édition. Hein.
Multiculti Édition.
Multiculti Édition. Et puis, voilà, à la fin, au lieu de nous mettre les livres déjà parus, ils nous mettent les livres qui vont bientôt paraître.
Tout à fait. Rap au vif paraît le 24 novembre, le 24 octobre 2024.
Voilà, donc là on est en avant-première. Alors, qu'est-ce que c'est, Rap au vif?
Rap au vif, c'est un polar. C'est pas un roman policier, c'est un polar. C'est un regard sombre, noir, et assez critique sur notre société, sur le monde qui est devenu après. Donc, on a eu une série d'attentats en 2015, si vous en souvenez. Il y avait eu l'état d'urgence, il y avait eu un climat assez dur hein, envers toute une partie de la population, avec une sorte de chasse de l'ennemi d'intérieur, avec des mots très très durs de politique, de chroniqueurs, d'essayistes. Je suis venu analyser tout ça. En essayant, j'ai cette phrase-là où le tueur en série, parce que c'est un tueur en série qui s'en prend à des femmes portant le voile, c'est le grand remplacement, c'est la théorie du grand
Toute la
remplacement
théorie du
incarné.
grand remplacement, tenue par certains, je ne sais pas si on peut les appeler des idéologues, parce que ce serait leur supposer une certaine intelligence, mais bon, bref, je vais m'arrêter là.
En tout cas,
Donc.
ce tueur, lui, souscrit totalement à cette thèse.
Ouais.
Et il angoisse de rester inactif face à un combat qu'il sait perdu d'avance. Et il agit.
Il agit. Alors, il a un parcours, sans tout dévoiler, hein, un tueur qui a un parcours assez étrange. Alors, il a un côté très esthète. On sent quelqu'un qui a une culture, une sensibilité aux belles choses, même s'il les décline d'une façon un peu particulière, et qui est passé par un drôle de parcours. Lui, il a eu affaire aux terroristes tchétchènes.
Oui, sans aller trop loin dans le spoil, mais j'ai en horreur, vous savez, l'appellation de monstre pour
Ouais,
les
ouais,
tueurs en
ouais,
série.
ouais.
On est dans une époque, vous le voyez avec certaines séries, documentaires, etc., de fascination pour les tueurs en série. On a une fascination que je trouve assez malsaine, mais c'est pas le débat. On a une fascination pour ces tueurs en série et on aime les dépeindre comme des monstres, comme des. Tout expliqué par leur étrangeté. Ils ne sont pas comme nous, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et je pense qu'au contraire, et le procès de Pellico, pas de Pellico, le procès Pellico qui
Ouais, ouais,
se
ouais.
joue sous nos yeux en ce moment nous rappelle que non, 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 pas du tout. Ce sont des gens ordinaires qui ont certes, qui sont, comment on peut dire, allés au-delà de certaines barrières, hein, de certains interdits qu'on se donne tous, hein, tu ne tueras point. Ils sont allés un peu plus loin que ça, ils ont mis en acte leur désir de tuer. Mais ce sont des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. Et ce personnage-là, j'ai essayé de le rendre le plus ordinaire possible. Alors, bien sûr, avec une vie qui est venue l'impacter, qui est venue, qui est venue contracter justement ces frontières-là, voire les faire disparaître. Et j'ai voulu vous placer, vous, le lecteur, dans les yeux et au cœur de cette pensée, de cette réflexion-là du tueur. Donc tous les récits de chasse, de traque et de mise à mort sont à la première personne. Vous êtes le tueur pendant tout le long du récit.
Je me disais en vous écoutant, ce que vous dites, il y a peut-être on pourra reprendre le propos de Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Là, j'ai envie de dire « on ne naît pas monstre ou meurtrier, on le devient ». Est-ce qu'il y a un peu cette idée ?
Alors, je pense qu'on est tous le produit de notre temps, de notre époque. Aujourd'hui, je pense ce que je pense parce que d'autres personnes ont pensé les choses avant moi et ont mis en place une certaine configuration sociale ou politique. Et je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas été élevé dans mon milieu, etc. Ce que je dis n'a rien d'original. Mais ce tueur n'aurait pas pu exister sans ces idéologues. Moi, je les appelle idéologues parce qu'ils sont fabricants d'une idée. Une idéologie. Et on a vu cette idéologie quand même armée des tueurs à Chris Crutch, si je ne me trompe pas de nom, aussi en Norvège, qui se sont revendiqués de cette théorie du grand remplacement, dont le théoricien, l'idéologue, est invité sur nos plateaux télé. Voilà. Je pense qu'on ne mesure pas l'époque dans laquelle on vit et la déconnexion entre parole et responsabilité de cette parole-là. Là, vous avez un tueur donc, qui se sert d'un couteau. Il y a une main qui tient le couteau. Mais il y a une parole qui inonde le cerveau du tueur.
Voilà. Alors, on est bien dans le monde d'aujourd'hui, hein, dans le souterrain de ce que produit ce monde, j'ai envie de dire, et puis de ce que les événements produisent, eux aussi. Hein. Je disais par rapport alors, au personnage du meurtrier, on ne naît pas monstre, on le devient. Hein, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est valable pour plusieurs personnages. Certains sont en devenir ou on retrouve leur trajet, comment ils sont devenus. On a le jeune Rémi qui débarque dans la police. Alors, vous me disiez en pré-entretien, si je puis dire, pour vous, c'est un peu le lecteur qui découvre tout ce monde et qui a le talent, c'est qu'il sait lire, quoi, j'ai envie de dire, effectivement. Mais il est en devenir, lui aussi.
Il est en devenir. Alors, j'ai voulu placer un personnage qui est neuf, naïf, avec ce regard sur le monde où il découvre ces personnages qui sont assez ubuesques hein, pour certains, où on est totalement dans la fiction. Hein. J'ai mis quand même des balises de fiction. C'est pour ça que c'est pas un roman policier, mais mes policiers s'appellent inspecteurs. La notion de hiérarchie est très fluide, ce qui n'est pas dans l'administration pour être fonctionnaire, je peux vous le dire, française. Donc, j'ai voulu me débarrasser de tout ça qui, pour moi, c'est pas ce que je voulais raconter. Je voulais pas raconter comment la police française enquête sur un tueur en série.
Vous dites, c'est pas un roman policier.
C'est un polar.
C'est pas à la Agatha Christie, hein, non.
Tout à fait.
C'est pas un whodunit, hein, on cherche pas qui était le meurtrier, on le sait tout de suite, même si on sait pas très bien qui c'est.
Tout à fait. Hein,
c'est autre chose qui vous
intéresse. Oui, moi, ce que je voulais faire, c'est une biopsie de notre société. Comment, une fois qu'il y a ces meurtres en série qui se dévoilent, comment, jeu de mots, mais pas volontaire, comment notre société va y résister ? Elle est impactée. Comment elle va y résister ? Qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui défait société ? C'est l'unique propos de ce roman, c'est venir interroger en mettant ces théories donc, islamophobes qui viennent mettre au banc une certaine partie de la population, qui viennent dire l'islam n'est pas assimilable dans la République, il faut combattre le voile, tout ça c'est des paroles de politique, le combat contre le voile et le combat prioritaire de la République, des choses comme ça, ben, si on les incarnait, si on les mettait en acte ces paroles, est-ce qu'elles sont sans conséquence. Un ami auteur de Montpellierin, Nourdine Barra, me disait il n'y a pas si longtemps, écrire est une conséquence. Je souscris totalement, j'ai trouvé cette phrase avec brio, qu'elle contenait beaucoup de brio, puisque on ne peut pas écrire de façon inconséquente et sans conséquence, tout comme on ne peut pas parler de façon inconséquente et sans conséquence.
Une version plus intéressante du slogan journalistique, le poids des mots.
Tout à fait.
Il y avait le choc des photos, là, on n'a pas les photos. On a la musique, on va y revenir. On fait une petite pause, et puis encore un personnage qu'on n'a pas évoqué, celui du flic. Dans un polar, c'est difficile de l'éviter. On en parle tout de suite après une petite pause.